Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un quatrième numéro avec Gilles Béru. Bonjour Gilles Béru.
Bonjour.
Alors on ne vous présente plus, on vous connaît depuis ce début de semaine. Ce ne sont pas des clés pour mourir que je vous propose, mais des clés bien pour vivre et des conseils peut-être pour nos amis auditeurs, fils ou filles et accompagnateurs de leurs propres parents, d'une génération peut-être âgée de 85 ans voire 90 ans. Quels conseils pour un aidant ?
Alors oui, le concept d'aidant est un concept nord-américain qui s'appelle les caregivers, les donneurs de soins. Et ce concept d'aidant représente une part importante dans la population. Hein. On estime qu'on doit être entre 2 et 3 millions de personnes qui sont en situation d'aide d'une autre personne. Alors ça, c'est pas confiné à la question de l'âge, hein. C'est toutes les personnes qui sont proche d'une personne en situation de handicap, handicap moteur, handicap mental, qui sont soit aussi conjoints de quelqu'un qui est en difficulté par une maladie. Et puis, dans un grand nombre de cas, ce sont des personnes qui ont tout simplement des parents. Alors, les parents ont des difficultés aujourd'hui. Le calendrier des difficultés, si j'ose dire, on le voit avec l'âge moyen d'entrée en EHPAD, qui est de 85 ans et 8 mois. Donc, une dame de 85 ans et 8 mois qui a eu un enfant à 25 ans, eh bien, elle a un enfant de 60 ans. Donc, l'enfant de 60 ans, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, c'est simple, il ne travaille plus, il commence sa retraite, et il a des parents ou un des parents qui se retrouve à l'âge des difficultés, où on se pose des questions sur rester à domicile, apporter des aides, comment fait-on ? Et ils ont aussi, évidemment, les enfants qui peuvent parfois être en difficulté de chômage, de divorce, etc. Des petits-enfants qui cherchent leur voie, qui ne savent plus trop quoi ils sont dans la vie, qui ont quelques addictions qui font qu'ils ont du mal finalement à occuper leur rôle social. Et donc on s'aperçoit que la personne de 60 ans, c'est l'expression qu'on utilise, est la génération sandwich. Aidant des plus âgés, aidant des plus jeunes. Et donc, l'aide devient quelque part une des grandes occupations où il faut faire la part entre l'aide que l'on apporte, mais aussi sa propre vie. Parce que si on se consacre complètement à ses parents en oubliant son conjoint, bah, c'est pas terrible. Si on s'occupe que des enfants en oubliant les parents, c'est compliqué. Et puis, comme disait Jacques Dutronc, Et moi. C'est-à-dire, et là-dedans, qu'est-ce que moi je vis de ma vie ? Qu'est-ce qui m'est donné ? Alors, servir les autres, m'oublier, me sentir coupable de tout, oui, mais c'est pas une vie, en fait. On n'est pas sur Terre pour se sentir coupable de tout. On est là pour être responsable, mais pas forcément pour se sentir coupable de tout, de ne pas en faire assez. Et d'ailleurs, dans la pratique clinique qui est la mienne en consultation, eh bien, je vois assez souvent les aidants mourir avant les aider, d'épuisement quand c'est des conjoints. Et donc, la santé des aidants est une vraie question. À tel point, c'est qu'on a mis en place une consultation des aidants, parce que les aidants s'occupent tellement des autres qu'ils ne font pas les préventions sur le cancer, ils ne s'occupent pas de leur hypertension artérielle, ils ne sont pas observants sur leurs médicaments. Et donc, finalement, ils ont un état de santé qui est moins bon qu'une personne qui n'est pas en situation d'aide. On a même fait des études qui montrent que quand il faut prendre un traitement anticoagulant, quand la personne est aidante, il faut que les doses soient plus importantes. Comme si le corps était en situation de stress permanent et qui finalement générait les conditions de maladie.
Vous permettez, mais vous décrivez une situation particulière qui met en difficulté l'aidant. L'aidant est lui-même en grande difficulté.
L'aidant est en très grande difficulté. La consommation de psychotropes est le double chez les aidants que chez les personnes de même âge qui ne sont pas aidantes. Et les gens meurent de pathologies cardiovasculaires. Les infarctus, les décès par infarctus sont beaucoup plus importants chez les aidants que chez les non-aidants.
Quelles sont les solutions d'accompagnement ?
Eh bien, les solutions, c'est d'abord se faire aider dans l'aide. pas vouloir faire tout seul. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Deuxièmement, ne jamais s'oublier. Jamais. Trouver toujours une part de son emploi du temps pour soi-même, pour aller marcher dans la campagne, aller à la piscine, que sais-je. Mais il faut se donner du temps à soi, des temps de respiration. Sinon, on est dans une espèce de pathologie de la culpabilité qui est morbide. Et ça ne fait pas plus de bien à la personne qu'on aide. Et là, ça nécessite une véritable assaise. C'est comment j'apporte une aide qui soit proportionnée à ce que je peux faire. Et comment je vais me faire aider ?
Donc, vous soulevez une grande question. Certains de nos auditeurs sont certainement concernés, Gilles Béru. Alors, un conseil pour chacun d'entre eux qui vous écoute dans cet entretien du jour.
Alors, si on est dans la question de la gériatrie, il existe partout en France des centres d'information locaux de coordination gérontologique, qu'on appelle des CLIC, qui se situent dans les mairies, dans les CCAS. Il y a beaucoup de professionnels de l'aide et du conseil qui sont disponibles. Et en ce moment, c'est en train d'être développé beaucoup. Deuxièmement, dans les établissements de santé, il y a des services de gériatrie avec des consultations d'évaluation qui permettent de faire un état des lieux de la situation pour conseiller les aidants. Il existe aussi parfois des consultations des aidants. Quand on se sent en souffrance et submergé par la culpabilité, qu'on dort plus dans l'angoisse en disant « mais qu'est-ce que je vais faire de maman ?» Eh bien, il faut savoir à la fois prendre des conseils techniques et se faire aider psychologiquement. Notre relation parent est une relation complexe, puisque notre psychologie, on la construit dans la matrice de notre relation aux parents. Alors comment avoir une relation qui soit claire, voyante avec ses parents ? Bah, tout simplement, c'est impossible. Et donc, il faut qu'il y ait une médiation qui soit en place. C'est capital. On n'est pas des surhommes. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas raisonnables. Et donc, voilà.
Donc, c'est sortir un peu de cette dimension aussi de l'affectif pour
Non, mais l'affectif est une dimension normale, mais on ne peut pas tout faire à l'affectif sans aucune technicité.
Donc l'aidant doit impérativement, dans cette réflexion, faire ses propres démarches pour frapper à la porte et se faire lui-même aider par un médiateur.
Exactement, ouais. Exactement. Et c'est vrai que la place de la gériatrique est quelquefois vue comme le service où les gens sont vraiment pas bien, à un autre visage qui est le visage de la consultation, de l'hospitalisation de jour, des lieux alors qui peuvent être soit à l'hôpital, soit aussi il y a des centres de plus en plus gérontologiques en ville qui existent et qui vont se développer pour justement prendre des conseils. Sur la nutrition, sur l'équilibre, sur une trajectoire médico-sociale, sur des accueils de jour, sur une intervention peut-être différente des kinés, des orthophonistes, un soutien psychologique. Il y a plein d'outils qui existent dont on ne se sert pas. Et on voit les gens
Et vous l'expliquez comment les outils que vous présentez existent bel et bien et ces démarches ne sont pas faites, hein. Pourquoi ?
Parce que cette culture de la prévention de l'âge n'existe pas parce que notre modèle qui est né après-guerre est né sur le modèle d'une maladie aiguë pour lequel on va voir un médecin qui va faire l'ordonnance et on guérit. Et le modèle économique, c'est le paiement à l'acte. C'est-à-dire, je suis malade, bonjour docteur, j'ai mal là, tenez, prenez un comprimé, au revoir monsieur. Mais en fait, on est avec une population où 60% des gens qui viennent voir les médecins généralistes ont plusieurs maladies chroniques. Donc le paiement à l'acte n'est plus adapté. L'État, depuis 2012, essaye de faire évoluer vers un parcours de soins pour être dans le longitudinal et à l'intérieur de ce parcours pour les personnes âgées, de pouvoir faire des temps d'évaluation. Mais ça, c'est long à se mettre en place. Et puis, on peut le dire, il y a aussi un problème générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ont plus de 55 ans, qui sont restés au paiement à l'acte et qui n'ont pas du tout envie de passer au parcours de soins. Et donc, le système est d'évolution très lente. Et donc, on a un peu deux calendriers qui se confrontent. Le calendrier du vieillissement de la population avec une explosion des plus de 80 ans en 2027. Explosion qui va se continuer jusqu'en 2035. Et en même temps, une mutation du service de santé, des professionnels, de l'organisation générale qui est forcément lente. On a démarré ça un peu tard, mais on ne pourra pas aller plus vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un médecin de 65 ans qui est au travail de changer son regard. Il faut attendre qu'il parte à la retraite pour être remplacé par 3 jeunes médecins à temps partiel dans une maison médicale et qui vont partager. Et donc ce turnover demande du temps, mais c'est obligatoire.
Alors nous n'avons plus de temps. C'est la fin de cet entretien. Merci Gilles Béru pour tous ces bons conseils et puis ces réflexions aussi que vous nous donnez. Je vous propose de vous retrouver demain pour finaliser cette série. À demain à la même heure.
À demain.